Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Aliette Ovine. À la réalisation, Alexandra Malka, prise de son, Jean-Guilain Meige.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Deuxième jour de notre série consacrée aux économies insulaires. Hier, nous avons fait un saut dans l'espace et dans le temps qui nous a menés dans les Caraïbes, au temps des colonies, dans des territoires dominés par l'esclavage et la culture de la canne à sucre. Aujourd'hui, nous faisons escale dans une île sous pression, la démocratique Taïwan, qui résiste encore et toujours aux velléités de reconquête de son puissant voisin. Depuis 1949 et la fuite des opposants à Mao Tse-tung, l'ancienne Formose agricole est repliée sur elle-même et devenue un îlot de prospérité. La modernisation de l'île, incarnée par le miracle taïwanais, et les soutiens diplomatiques ont longtemps permis au régime de tenir face à la Chine. Mais aujourd'hui, les nuages s'amoncellent au-dessus de l'île rebelle. Il est 14h passé de 1 minute sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Le régime taïwanais de plus en plus dépendant de la Chine survivra-t-il au rêve de réunification du président Xi Jinping ? Voilà la question qui va nous occuper aujourd'hui en compagnie de Françoise Mangin, directrice de recherche au Centre de recherche internationale de Sciences Po et autrice de Fragments d'une guerre inachevée, Les entrepreneurs taïwanais et la partition de la Chine, paru chez Cartala, en compagnie également de Jean-Philippe Béja, sinologue, politologue et directeur de recherche au CNRS et aux séries de Sciences Po. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade. Bonjour Françoise Mangin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Jean-Philippe Béja va nous rejoindre dans quelques instants. Et d'abord, pour bien comprendre comment l'économie taïwanaise s'est structurée, il faut revenir à la fin du 19e siècle, au moment où le Japon devient maître de l'île à l'issue de la première guerre sino-japonaise. Taïwan et la Mandchourie sont cédés au Japon par le traité de Shimonoseki de 1895.
C'est le traité de Shimonoseki qui a en fait des conséquences régionales colossales, puisque la première guerre sino-japonaise, c'est le renversement de l'équilibre régional. C'est le triomphe en Asie orientale du Japon sur la Chine. Et ce pour une durée de 50 ans, donc jusqu'à 1945, 50 ans qui correspondent exactement à la période de colonisation japonaise à Taïwan. Au début de la colonisation japonaise, l'intention du gouvernement de Tokyo est de faire de Taïwan un laboratoire de son empire. Bon, Taïwan est la première colonie à l'époque contemporaine, d'un pays non européen, d'un pays asiatique. Et le Japon, en quelque sorte, il met en œuvre les principes modernes sur lesquels la restauration Meiji s'est fondée, évidemment, du point de vue d'une puissance coloniale, c'est-à-dire en faveur de ses propres intérêts, économiquement notamment. Mais progressivement, en effet, elle s'apaise dans les années 20, essentiellement, et se forme une sorte de couche assimilée, en quelque sorte, d'une élite taïwanaise formée à la japonaise, qui acquiert un certain espace de parole et d'autonomie.
L'historien Victor Louzon, dans l'émission Concordance des temps sur France Culture, le 16 février dernier. Françoise Mangin, on peut dire que la modernisation de Taïwan commence dès la colonisation japonaise, bien avant le fameux miracle taïwanais qui aura lieu dans la seconde moitié du XXe siècle.
Oui, tout à fait. Il y avait eu un tardif essai de la part de l'Empire Qing de moderniser Taïwan à partir de 1887 en faisant une province à part entière de la Chine, mais c'est véritablement à partir de la colonisation japonaise que cette modernisation a lieu. Les Japonais prennent possession de Taïwan en 1895 après une période de rébellion locale. À partir de 1920 se met en place ce qu'on a appelé la politique d'assimilation, d'oka. Les Taïwanais étaient appelés à s'acculturer, à adopter les us et coutumes des Japonais, mais c'était une politique d'acculturation discriminatoire parce que les Taïwanais n'avaient pas de droit politique, pas de droit économique. L'essentiel des entreprises modernes, et en particulier l'industrie sucrière mise en place par les Japonais, restait aux mains des Japonais.
Alors justement, quelles sont ces industries qui sont développées par le Japon et au bénéfice du colon japonais ?
Alors, essentiellement l'industrie sucrière. L'île exporte du sucre, du riz, du camphre et importe de la métropole des produits finis de consommation courante. Et l'excédent des productions agricoles sont exportés vers le Japon.
Il y a aussi une industrie de guerre qui se met en place ?
Beaucoup plus tard. En plus, les Taïwanais étaient plus lourdement taxés qu'ils ne l'étaient sous l'Empire Qing, et plus lourdement taxés surtout que les Japonais de la métropole. Et à partir de 1937, c'est-à-dire l'entrée en guerre du Japon contre la Chine, se met en place une politique dite d'impérialisation, cette fois-ci d'assimilation coercitive. Les dialectes chinois locaux sont interdits, l'usage du japonais obligatoire, le port des vêtements japonais obligatoire, les Taïwanais doivent nipponifier leur nom de famille, et se mettent en place, donc très tardivement, à partir de 1937, une industrie lourde au service des besoins de l'armée impériale. Et les Taïwanais sont enrôlés également, filles et garçons, dans l'armée impériale.
Et ce sont des structures, pardon de vous couper, qui vont être reprises ensuite par le Kuomintang quand après la défaite du Japon en 1945, lorsque Taïwan reviendra dans le giron chinois.
Tout à fait. Mais juste avant d'aborder ce point, je voudrais dire que le legs de la colonisation japonaise, c'est aussi plein d'infrastructures sur l'île, des routes, le chemin de fer, un système éducatif, un système sanitaire et les deux grandes voies d'ascension sociale qui ont été laissées aux Taïwanais sous la colonisation japonaise, ce sont l'enseignement et la médecine. Alors, effectivement, en 1945, au terme de ce qui avait été décidé par les alliés aux conférences du Caire en 43 et de Potsdam, confirmé à Potsdam en juillet 1945, Taïwan est restitué par le Japon à la Chine. Et là, l'administration nationaliste chinoise qui gouverne depuis Nankin, nationalise toutes les entreprises japonaises, qu'elles soient publiques ou privées, c'est-à-dire près de 300 entreprises, 298 exactement, et les regroupe en 24 entreprises publiques chinoises à Taïwan.
Alors j'accueille Jean-Philippe Béja qui nous a rejoint autour de la table. Bonjour Jean-Philippe Béja. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je voulais vous demander, Jean-Philippe Béja, sur quoi cette politique économique de nationalisation du Kuomintang se fonde à ce moment-là? Elle s'appuie sur l'idéologie de Sun Yat-sen, qui est l'un des fondateurs du Kuomintang?
Oui, évidemment. Vous savez ce que disent aujourd'hui beaucoup de penseurs chinois, c'est qu'il n'y a jamais eu véritablement d'économie libre dans la Chine moderne et que tout, on est passé au fond de la dictature d'un parti léniniste à la dictature d'un autre parti léniniste pour ce qui est du continent. Donc, effectivement, l'attitude de Chiang Kai-shek vis-à-vis de l'économie privée était une attitude largement prédatrice. Alors, on a d'un côté les cronies, on pourrait dire les gens de la famille, etc. On connaît l'affaire des Song, par exemple, et des quatre clans, mais d'autre part, l'essentiel, c'était une économie d'État. Donc, Taïwan ne faisait pas exception à la politique du Kuomintang. C'est simplement une province chinoise, une province chinoise dans laquelle le Kuomintang va rétablir son pouvoir, et naturellement, les entreprises qui ont été créées par les Japonais vont devenir des entreprises nationales ou des entreprises partisanes. D'ailleurs, ce sera une question qui se posera à un certain moment.
Et c'est une façon pour le Kuomintang, pour les membres du Kuomintang, de mettre la main sur l'économie taïwanaise et sur le secteur privé, en particulier Françoise Mangin.
Oui, dès 1945, ils mettent donc la main sur le secteur privé et surtout, ils mettent ce secteur public restructuré au service de la reprise de la guerre civile contre les communistes sur le continent. Et il y a même des usines laissées par les Japonais à Taïwan ou des rails de chemin de fer, etc., qui sont démontés et transportés en Chine comme butin de guerre. Et en passant, certains hauts dirigeants nationalistes se servent au passage. Donc c'est une entreprise complètement prédatrice qui s'exerce sur la province de Taïwan entre 1945 et 1947. Et dès le début de l'année 1947, évidemment, la population insulaire se révolte contre cette administration prédatrice.
Alors justement, Françoise Mangin, comment Chiang Kai-shek parvient-il à mobiliser Taïwan du côté des nationalistes dans la lutte contre les communistes? Pour le comprendre, il faut revenir aux événements du 28 février 1947.
En fait, le 28 février, c'est un événement assez tragique dans l'histoire de Taïwan. Ça commence par un fait divers. C'est une vieille dame qui vendait des cigarettes de contrebande qui a été arrêtée par un policier et puis molestée. Et puis, un Taïwanais s'est interposé et puis il a été tué par ce policier. Et là, des révoltes ont commencé à émerger dans l'île, d'abord à Taipei et puis après jusque dans le sud de l'île. Et puis, il y a eu donc une répression très sévère de la part des troupes nationalistes. Les Taïwanais se sont sentis un petit peu lésé et puis trompé parce que le gouverneur de l'époque, qui s'appelait Chang Yi, avait dit qu'il organiserait une assemblée pour recueillir un petit peu l'avis des Taïwanais par rapport à la gestion de l'île. Et puis finalement, il a dit ça pour gagner du temps et pour faire venir des troupes nationalistes à Taïwan. Et c'est elles, en fait, qui ont exercé une répression vraiment très sévère pour la population de l'île. Et cet événement, en fait, a scellé la fracture entre les Chinois du continent, donc venus à Taïwan à partir de 1945, et puis les Taïwanais de souche qui sont sur l'île de Taïwan depuis le XVIIe siècle.
La politologue Samia Ferrad dans La Fabrique de l'Histoire sur France Culture, Chiang Kai-shek va attribuer ce soulèvement du 28 février aux rebelles communistes et engager ainsi l'île dans la guerre civile, Françoise Mangin ?
Oui, tout à fait. Il y a eu un parti communiste taïwanais entre 1928 et 1931, interdit en 1931 par les Japonais. Et donc, les communistes étaient tout à fait marginaux dans le soulèvement du 28 février 1947. Mais après avoir envoyé la troupe le 9 mars 1947, Chiang Kai-shek va réécrire l'histoire de ce soulèvement et faire des communistes la cause de ce soulèvement. Ça sera une manière pour lui, si vous voulez, d'importer, j'emprunte cette formule à un historien américain, Stephen Phillips, d'importer le communisme sur l'île alors que, encore une fois, les communistes étaient tout à fait marginaux à Taïwan, et donc d'enrôler Taïwan dans la guerre civile, Taïwan étant déjà un peu enrôlé en ce sens que les nationalistes, encore une fois, pillaient Taïwan pour les besoins de la guerre civile.
Et en 1949, Mao Tse-tung va prendre le pouvoir et la République populaire de Chine est alors proclamée et Chiang Kai-shek fuit à Taïwan. À partir de cette date, les échanges commerciaux entre la Chine continentale et l'ancienne Formose vont s'effondrer et ils seront remplacés par un commerce de contrebande dans un premier temps, Jean-Philippe Béja.
Oui, à partir de la prise de pouvoir en 1949 et surtout à partir de la guerre de Corée. C'est la guerre de Corée qui va lancer le blocus américain à l'égard de la Chine populaire.
Entre 1950 et 1953.
Pardon, 50-53, oui. Alors évidemment, à ce moment-là, on est en pleine guerre froide, et bien sûr, la Chine est dans le camp socialiste, tandis que Taïwan va être intégré au monde libre. Alors donc, à ce moment-là, il y a une rupture totale, et en même temps, sur le continent, on va avoir une chasse aux sorcières. Dans le mouvement d'élimination des contre-révolutionnaires, on va chercher, à partir de 50, mais ça durera pendant toutes les années 50 et les années 60, les agents du Kuomintang qui seront accusés de chercher à renverser le régime. Ce qui est d'ailleurs pas entièrement faux. Si on regarde vers le Yunnan, par exemple, du côté de la frontière birmane, etc. Mais depuis Taïwan, les seuls, effectivement, si vous voulez, le Fujian, qui est donc la frontière, la zone chinoise, pardon, qu'est-ce que je dois dire? La zone du continent qui est frontalière avec Taïwan, est plus ou moins bien contrôlée par les communistes au début. Et donc, c'est aussi, il faut bien le dire, je ne vais pas parler de vieilles traditions historiques, mais disons que la tradition de pirates et de contrebande, comme toutes les zones côtières, est très importante. Donc on a des échanges économiques entre Taïwan et le continent, mais ça reste au niveau des peuples, on peut dire.
Mais à partir de 1954, la République populaire de Chine va chercher à récupérer Taïwan et commencer à bombarder l'île. La coupure va être définitive et totale à partir de cette date-là, Françoise Mangin ?
Oui, les communistes chinois ne bombardent pas l'île de Taïwan. Ils bombardent l'archipel de Jinmen, qui est un tout petit archipel, qui est situé à quelques encablures du continent chinois, dans la province du Fujian. Face à la ville de Xiamen, et ce sont les bombardements sur cet archipel de Jinmen en 54 puis en 58 qui affermissent le soutien américain à Taïwan. Et Jinmen va devenir l'avant-garde à la fois de la défense de Taïwan et, jusqu'à ce que les nationalistes ne l'abandonnent pas, de leur prétention à reconquérir militairement le continent.
Il faut se figurer une tablette verticale encastrée dans un socle. Du bois brut rendant l'objet dense, plus pesant que sa taille ne le laisserait supposer. Peinture crème, quoique teintée de brun ici et là. Dessus, les caractères indiquant le nom de deux familles, les Tao et les Yu, les patronymes respectifs d'un homme et de son épouse ou des deux parents de son propriétaire. Deux patronymes rares à Taïwan, peut-être ceux de Chinois dits continentaux, arrivés de Chine avec l'armée de Chiang Kai-shek à la fin des guerres civiles chinoises. Après le départ des Japonais de l'île en 1945, les nationalistes chinois fraîchement arrivés se comportèrent en prédateurs. Ils firent main basse sur tout ce que les Japonais Oni avaient de plus raffiné, et des maisons élégantes ils firent leur domicile. Cette stèle de bois était peut-être la tablette d'un homme venu seul de Chine, à peine âgé de 20 ans à la fin de la guerre civile, après avoir été mis d'autorité sous les drapeaux arrachés à sa terre et à sa famille, à laquelle le Kuomintang ne laissait qu'un fils pour cultiver la terre et prendre la succession de ses parents. Tant et tant furent ainsi envoyés combattre les Japonais, puis les communistes, avant de partir sur Taïwan en 1949, sans avoir pu revoir leurs chers parents, leurs bien-aimés ou leurs secrets amants. Condamnés à vivre des décennies avec pour seul viatique affectif une photo de l'être cher, de plus en plus jaune, de plus en plus vaine. Tout le monde l'avait cru, le Kuomintang. L'exil à Taïwan ne serait que temporaire.
Un extrait d'un roman de Stéphane Corcu, Une tablette aux ancêtres, paru chez l'Asiatech. Qu'est-ce que ce texte vous inspire, Françoise Mangin? Peut-être une forme d'autoritarisme du Kuomintang qui s'exprime ici?
Oui, incontestablement, le régime Kuomintang qui s'est replié à Taïwan était un régime autoritaire. La loi martiale avait été imposée avant même le repli du régime, c'est-à-dire en mai 1949. Elle ne sera pas levée avant le 15 juillet 87, c'est-à-dire pendant 38 ans. Les nationalistes qui se sont repliés avec Chiang Kai-shek à Taïwan en 1949, c'est-à-dire le gouvernement, les assemblées parlementaires, l'armée, plus d'un million et demi de civils, sont arrivés sans véritable attache sur l'île et en pensant que leur exil serait temporaire et qu'ils pourraient retourner à plus ou moins brève échéance sur le continent. Pour autant, et donc cette modalité de repli, le fait que les assemblées parlementaires aient été gelées pour que ces assemblées continuent de représenter artificiellement toutes les provinces de la Chine, c'est-à-dire qu'on ait des députés représentant la province du Shandong, du Fujian, etc., etc., et le fait que l'essentiel de l'économie privée ait été, dans les années 50, aux mains de ces continentaux arrivés sans attache à Taïwan, fait qu'on a une forme de colonisation de Taïwan par les nationalistes, par les continentaux. Pour autant, je dois ajouter qu'il n'y a pas eu de ségrégation officielle entre les populations continentales et taïwanaises. Néanmoins, ces continentaux se sont regroupés plutôt dans le nord de l'île, plutôt à Taipei, et plutôt dans certains quartiers de Taipei.
Et ça a créé cette séparation entre les Taïwanais qui étaient déjà présents sur place, environ 6 millions de personnes, et les Chinois venus du continent, 1 million et demi, comme nous le disait à l'instant Françoise Méjean.
Oui, un peu plus d'un million et demi, oui. 1,5 million de civils.
Et 2 millions en tout et pour tout.
Oui, et rappelons qu'ils parlent une langue différente. Enfin, alors c'est évidemment, tout le monde écrit le chinois, mais le dialecte de Taïwan est incompréhensible pour les gens du continent et réciproquement. Mmh. Donc il va y avoir une politique d'éducation au mandarin. Si vous parliez avec Li Donghui lisait tous les matins l'Asahi Shimbun, qui est le journal japonais, et il parlait un mandarin absolument épouvantable.
Li Donghui qui
a été le premier président du Kuomintang, indépendantiste, disons, plus ou moins. Enfin, non, pas indépendantiste, mais disons... À la fin de sa carrière, il était devenu. Et donc, on a cette espèce de choc culturel dans une large mesure. Alors, au départ, en 45, on s'était dit, enfin, Taïwan rentre dans le giron de la Chine. Et donc, il y avait une partie des Taïwanais qui étaient heureux de ce retour. Et
de puis, se libérer du
joug japonais, bien sûr. Et puis, tout d'un coup, on voit que, effectivement, comme le disait Françoise, les nationalistes sont en fait une sorte de nouveaux colonisateurs. Et l'identité taïwanaise est quelque chose qui est bien sûr pourchassé. Donc, on est dans un régime très autoritaire qui cherche à imposer l'idée. Alors, il y a cette fiction de la Grande Chine avec une assemblée nationale, une assemblée qui représente l'ensemble du pays, avec des gens qui vont vieillir, et à chaque fois, ah bah tiens, Nankin a disparu de l'assemblée parce qu'ils sont morts.
Il y a cette fiction que Taïwan représente la Chine entière.
Exactement. Donc, pour les Taïwanais, qui constituent l'écrasante majorité de la population, il y a évidemment une volonté de plus, enfin, un problème, parce qu'il y a eu, c'est une identité qui est une identité qui a été réprimée. Le 28 février 47, bien qu'on n'en parle pas dans les livres d'histoire, ça reste quelque chose qui est un véritable traumatisme pour la population. Donc on verra au fur et à mesure des décennies la prise de conscience d'une identité taïwanaise au niveau politique et au niveau économique aussi, puisque les grandes entreprises appartiennent largement aux continentaux et largement, il faut bien le dire, aux Kuomintang. Et tandis que les petits entrepreneurs, notamment dans la province, c'est-à-dire en province, sont plutôt taïwanais. On a donc cette espèce de contradiction.
On va voir que la survie de Taïwan tient beaucoup à son développement économique. Et en l'occurrence, dans la marche de Taïwan vers la modernité, il y a une date clé, 1958. Taïwan choisit alors de développer l'industrie d'exportation contre les partisans d'une monnaie forte. Françoise Mangin ?
Oui. Au cours des années 50, la politique économique du gouvernement, fortement aidée par les Américains, l'aide civile et militaire américaine était la plus forte qui était dispensée à un pays qui n'était pas engagé dans un conflit ouvert. 1,4 million de dollars, entre 1950 et 1965. La politique économique du gouvernement dans les années 50 est celle d'une substitution des importations, c'est-à-dire des barrières tarifaires très fortes pour que l'industrie nationale prenne le relais. Le tissu productif taïwanais est alors partagé entre le secteur public, qui est absolument immense, et quelques entrepreneurs privés. Taïwan ne pouvait pas complètement éradiquer l'entrepreneuriat privé pour continuer de bénéficier de l'aide américaine et rester une alternative crédible aux communistes. Mais ces entrepreneurs privés étaient soit les quelques entrepreneurs continentaux qui ont suivi Chiang Kai-shek, et ils n'étaient pas nombreux, car le divorce entre l'entrepreneuriat privé et le régime nationaliste était antérieur à 1949.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que sur un plan économique, finalement, la Chine populaire et la Chine de Taïwan ont finalement la même vision.
Exactement. Jusqu'aux grandes nationalisations en Chine en 1956, les deux régimes, sur le plan économique, ne se différencient pas tellement. Et en plus de ces quelques grands entrepreneurs continentaux qui ont suivi Chiang Kai-shek, quelques entrepreneurs privés taïwanais cooptés dans une bonne logique coloniale, une bonne tactique coloniale. Et à partir de 1958, à la fois pour se rendre plus autonome du bailleur de fonds américain, et parce que le marché intérieur commençait à montrer ses limites, le gouvernement décide de lancer une politique de favorisant les exportations. Mmh. Or, le marché intérieur étant devenu une niche pour ces entrepreneurs continentaux, pour les entreprises publiques, etc., aucun de ces entreprises n'a voulu se lancer sur le marché international. Par conséquent, ce sont des Taïwanais, des agriculteurs taïwanais, qui ont commencé à fonder des petites PME fabriquant pour des donneurs d'ordre étrangers, en général américains. Il en est résulté donc un second clivage du tissu productif taïwanais, opposant un secteur rentier exploitant le marché intérieur, composé des entreprises publiques et quelques grands entrepreneurs privés, et une myriade de petites et moyennes entreprises, plutôt petites d'ailleurs, qui ont été responsables du miracle économique. Elles assuraient 85% de la production industrielle en 1980, elles étaient devenues le premier employeur du pays, et elles assuraient 70% des exportations taïwanaises.
C'est pour ça que vous dites qu'elles ont joué un rôle central, malgré ou plutôt grâce à leur exclusion, et elles ont joué peut-être un rôle plus central que celui de l'État, contrairement à ce que l'on entend d'habitude.
Exactement, ce sont ces PME qui sont responsables de la croissance économique qui va devenir indispensable dans les années 70, parce qu'une chose que l'on n'a pas dite, c'est que cette République de Chine, qui est le nom officiel de l'État encore aujourd'hui, cette République de Chine à Taïwan, a continué d'être reconnue par la majorité des pays occidentaux et à l'ONU en particulier, jusque dans les années 70, comme le seul régime représentant l'ensemble de la Chine. Et cette fiction, dans les années 70, s'est inversée, c'est-à-dire que c'est la République populaire de Chine qui a été reconnue comme étant le seul régime représentant l'ensemble de la Chine, y compris Taïwan, alors que Taïwan n'a jamais été gouverné par le continent depuis 1949. Et donc ce régime délégitimé dans les années 70, au lieu de remettre en cause sa prétention à représenter l'ensemble de la Chine, a cherché à ce moment-là à produire de la croissance économique. Et là, on a un parallèle magnifique avec ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 48, en tout cas tel que décrit par Michel Foucault, quand il dit « la croissance économique continue va relayer une histoire défaillante ».
Cette délégitimation de Taïwan, c'est ce qui va pousser l'État taïwanais à lancer l'ouverture économique et la croissance économique, Jean-Philippe Béja.
L'État taïwanais, oui. C'est, disons que après cette... L'essor de Taïwan, qui va devenir l'un de ces quatre tigres, de ces quatre dragons, va être quelque chose qui va beaucoup intéresser le continent après la mort de Mao Zedong. Disons que jusqu'à la mort de Mao Zedong, il n'est pas question d'avoir des rapports entre la Chine et Taïwan. Et donc, on ne regarde pas Taïwan. Taïwan, c'est simplement le lieu où sont installés les contre-révolutionnaires du Kuomintang. Le mot d'ordre reste toujours, on répète tous les ans, « Women Yijing, Jiefang Taiwan », nous libérerons Taïwan par tous les moyens. En fait, de temps en temps, on tire un petit coup de canon autour de Kemoy, de Jinmen, et rien ne se passe. Mais à partir de la politique d'ouverture, c'est justement vers les pays peuplés de Chinois que Deng Xiaoping va se tourner. Et bien sûr, dans ce sens, c'est Taïwan.
On va revenir un peu plus tard, effectivement, à la période qui va suivre la mort de Chiang Kai-shek. Mais d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que sur un plan économique, Françoise Mangin, la dépendance s'est inversée dans les années 80. Ce sont désormais les grandes entreprises qui ont besoin des PME, notamment pour se fournir en biens intermédiaires.
Non, c'est pas exactement ça. En fait, ce clivage du secteur productif entre grandes entreprises publiques et privées exploitant le marché intérieur et PME affrontant le marché extérieur a abouti à un renversement des flux habituels de l'offre et de la demande, parce que c'était la demande des donneurs d'ordre étrangers aux PME pour fabriquer des produits de faible ajoutée qui incitaient ces PME à se tourner en amont vers les grandes entreprises, et en particulier les grandes entreprises du secteur public, pour se fournir en matières premières et en produits intermédiaires.
Et alors, parallèlement à cette ouverture économique, Taïwan va poursuivre son entreprise de démocratisation entamée dans les années 70, Françoise Mangin ?
Pas véritablement dans les années 70. Dans les années 60 et 70, ce qui se passe, c'est que on a donc cet État central qui se superpose pratiquement uniquement sur la province de Taïwan, excepté les archipels des pescadors de Jinmen et de Matsu. Mais on a donc une superposition pratiquement parfaite entre l'État central et l'État local. L'État central, les institutions sont gelées pour représenter l'ensemble de la Chine, mais au niveau local, les assemblées locales sont renouvelées régulièrement et au suffrage universel. Et dans un cadre qui n'est pas celui du multipartisme, mais presque en ce sens que des candidats indépendants, extérieurs au Kuomintang, ont le droit de se présenter. Et petit à petit, cette mouvance qu'on appelle extérieure au parti, Danghuai, va former une forme de proto-parti politique. Mais il faut attendre le 28 septembre 1986, à une époque où il y avait eu beaucoup de scandales entourant le pouvoir, où un journaliste qui avait écrit une biographie critique, un journaliste taïwano-américain qui avait écrit une biographie critique de la famille Zhang avait été assassiné aux États-Unis, etc. Le régime était un peu à bout de souffle, il y avait en plus un renouvellement générationnel quand même au sein des ligues Kuomintang. Bref, le 28 septembre 86, cette mouvance d'Anguai extérieure au parti, au Kuomintang, fonde un parti politique, le Parti démocrate progressiste. Et dans les jours qui ont suivi, il y a eu beaucoup de débats au sein du comité central du Kuomintang, mais Chiang Ching-kuo, fils de Chiang Kai-shek, donc qui avait succédé à son père à la tête de la République de Chine, a décidé de ne pas interdire ce parti.
Et depuis, il y a une alternance entre le Kuomintang et le Parti démocrate progressiste.
Oui, mais avant ça, il y a eu toute une réforme des institutions qui a été extrêmement progressive, c'est-à-dire chaque changement appelant un autre changement, en particulier la fondation illégale d'un parti d'opposition a conduit à la levée de la loi martiale en juillet 1987 et au renouvellement de toutes les institutions centrales au suffrage universel par le seul électorat contrôlé par ce gouvernement, c'est-à-dire par l'électorat insulaire.
Vous l'avez dit, Jean-Philippe Béja, au milieu des années 70, Chiang Kai-shek puis Mao Tse-tung meurent à un an d'écart, ce qui va permettre une timide ouverture des relations entre la Chine et Taïwan. On en parle dans un instant. De Fujiya and Miyagi sur France Culture dans Entendez-vous l'écho, et nous poursuivons notre discussion sur l'économie taïwanaise face aux géants chinois en compagnie de Françoise Mangin et Jean-Philippe Béja. Alors que va permettre la mort de Chiang Kai-shek en 1975 puis celle de Mao Tse-tung l'année suivante, les deux ennemis, Françoise Mangin?
La mort de Chiang Kai-shek à Taïwan ne permet pas grand-chose puisque son fils va lui succéder à partir de 1978 et il restera au pouvoir jusqu'en 1988. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'est que la dernière année où il commence à libéraliser un peu le régime. La mort de Mao, en revanche, après une succession difficile, conduit au retour au pouvoir de Deng Xiaoping en 1978 et en même temps la politique étrangère de la Chine permet de délégitimer complètement la République de Chine à Taïwan avec la normalisation sino-américaine qui devient effective le 1er janvier 1979, donc établissement de relations diplomatiques entre Washington et Pékin et rupture des relations diplomatiques entre Washington et Taipei. Le gouvernement chinois lance un message aux compatriotes de Taïwan dont la teneur en substance revient à dire que la Chine n'abandonne pas la force et n'a toujours pas abandonné la force pour récupérer Taïwan, mais double cette politique coercitive d'une politique dite de réunification pacifique en encourageant les échanges entre les deux rives du détroit de Formose. Mais cette politique, évidemment, en 79, ne peut être acceptée par un régime nationaliste encore très crispé sur son dogme.
Il y a alors une volonté de Pékin, Jean-Philippe Béja, de passer par l'intégration économique pour permettre peut-être à terme une réunification ?
Oui, d'abord, Pékin a besoin s'inspire de l'exemple taïwanais dans une certaine mesure. L'exemple taïwanais est présenté, on crée une zone économique spéciale en face Taïwan, hein, à Xiamen. Cette zone économique spéciale, c'est copié sur les zones d'exportation créées à Taïwan. Ce sont des zones franches dans lesquelles on attire les investissements. Alors, on en fait une face à Hong Kong, une face à Macao et une face à Taïwan. Donc l'idée est bien claire, c'est venez donc investir chez nous, etc. Et plus vous investirez chez nous, plus évidemment vous serez dépendant de nous. Vous savez, ça c'est la politique du développement économique et du développement des échanges économiques qui devrait favoriser l'apaisement des contradictions. C'est ce qu'on fait aussi dans les provinces périphériques au Xinjiang et au Tibet. Donc cette idée est très importante. Et puis aussi, on a vu que récupérer Taïwan par la force, c'était pas véritablement possible. Deng Xiaoping est un pragmatiste et il veut laisser son empreinte dans l'histoire de Chine, de celui qui réunifiera la Chine. Et c'est pourquoi, d'un côté, il faut récupérer Hong Kong, qui est une des blessures infligées par le colonialisme à la fierté chinoise, et d'autre part, Taïwan, qui est une province. Alors, je sais que dans les journaux, on dit toujours la province rebelle. L'idée, c'est simplement, il faut réunifier la Chine. Donc, pour ça, on va leur proposer quelque chose et on va aller très loin. La formule, c'est un pays, deux systèmes. C'est-à-dire qu'on aura un système capitaliste à Taïwan et un système socialiste sur le continent. Et à partir de là, donc, il pourrait y avoir. Mais évidemment, Taïwan refuse cette formule, alors on va la réchauffer, et quand le gouverneur McLehose, le gouverneur de Hong Kong, vient en 79 à Pékin pour dire qu'est-ce qu'on fait de Hong Kong, on va dire ne vous inquiétez pas, on va vous faire un pays de système. Et Hong Kong n'est pas tellement dans une position suffisante pour pouvoir refuser ce système.
Et du côté de Taïwan, il faut attendre la fin des années 80 pour que Taipei accepte les investissements chinois, Françoise Mangin ?
Les investissements taïwanais en Chine.
Les investissements taïwanais en Chine ?
Oui, il faut attendre la levée de la loi martiale en 87. Et en novembre 87, le gouvernement autorise les visites de Taïwanais sur le continent à but familial. Donc, évidemment, tous les descendants, les continentaux, les descendants de continentaux sont retournés voir leur famille, mais ce sont aussi les petites PME familiales qui, elles, dont les patrons sont des descendants de colons chinois arrivés à partir du XVIIe siècle, qui ont pris le prétexte de visite familiale pour aller prospecter le marché chinois et ont commencé à investir illégalement d'abord en Chine, puis légalement lorsque l'investissement taïwanais en Chine a été autorisé par le gouvernement de Taipei à partir de 90. Mais, très rapidement, l'ensemble des industries à faible valeur ajoutée ont délocalisé leur production en Chine, et les grandes entreprises, et y compris les filiales des entreprises publiques, qui n'avaient pas le droit d'investir en Chine, mais comme le secteur public s'étendait via des filiales, etc., c'est l'ensemble des grandes entreprises publiques ou privées taïwanaises qui ont délocalisé en Chine pour conserver leur clientèle, qui étaient ces petites PME. Et ce qu'il faut voir, c'est que entre 1990 et les années 2010, la législation taïwanaise, qui a été toujours assez restrictive, c'est-à-dire autorisant tous les investissements en Chine qui n'étaient plus rentables à Taïwan, était toujours un cran en dessous. C'était toujours une légalisation ex post des brèches qui ont été ouvertes par les investisseurs taïwanais, qui pouvaient d'autant plus facilement investir de manière pas forcément illégal, mais en tout cas de manière non autorisée en Chine, qu'il n'y a pas eu de relation directe maritime et aérienne directe jusqu'en 2008.
Les fameux Shantung.
Les trois liens, oui. Et le gouvernement taïwanais n'autorisait que les investissements dits indirects, qui ne sont pas indirects dans le sens du vocabulaire financier courant, c'est-à-dire des investissements de portefeuille, mais des investissements indirects dans ce sens qu'ils devaient transiter par une filiale ou une autre entreprise dans un pays ou un territoire tiers, et par commodité, en général, c'était par Hong Kong.
Il y a un autre domaine dans lequel Taïwan se retrouve très isolé, c'est le domaine commercial. Et là, de manière assez étonnante, Taïwan fait partie de l'OMC. C'est la seule organisation internationale dont Taïwan fait partie en tant que membre à part entière. Alors, la raison pour laquelle la République de Chine a ce statut un peu exceptionnel, c'est qu'elle n'y est justement pas membre en tant que République de Chine. Elle est membre en tant que territoire douanier spécifique. Là, c'est acceptable du point de vue de Pékin parce que le fait est que sur le plan strictement commercial, Taïwan est dans une situation un peu différente du reste de la Chine. Donc c'est pour ça qu'elle a ce statut. Mais Pékin, du coup, fait barrage aussi à d'autres initiatives que Taïwan voudrait prendre pour essayer de rompre cet isolement sur le plan économique. Et en particulier, Pékin fait pression sur un certain nombre de pays avec lesquels Taïwan serait intéressé d'avoir des accords de libre-échange. Et du coup, il y a simplement deux pays un peu importants avec lesquels Taïwan a réussi à passer de tels accords, c'est Singapour et la Nouvelle-Zélande.
L'économiste Françoise Nicolas dans l'émission de Christine Ockrent, Affaires étrangères, le 2 février dernier. Jean-Philippe Béja, la Chine parvient à isoler Taïwan sur le plan commercial alors même que toutes deux font partie de l'OMC.
Oui, parce que la Chine mène une grande campagne au niveau politique sur le problème de la reconnaissance de Taïwan par ses quelques partenaires qui sont aujourd'hui, je crois, 18.
17.
17, il en reste maintenant. Parce que pour Pékin, il est extrêmement important d'être reconnu comme le représentant unique de la Chine. Donc, Taïwan pourrait avoir des relations commerciales si elle acceptait la formule « un pays de système », si elle rentrait dans le giron de la République populaire. Évidemment, ce n'est pas possible. Donc, dans ces conditions, Pékin fait pression. Alors, c'est une pression qui dépend, elle dépend de la conjoncture. Hein, avec l'arrivée de Ma Ying-jeou, qui était du Kuomintang au pouvoir, il n'y a pas eu de forte pression de Pékin sur les partenaires de Taïwan parce qu'on pensait que Ma Ying-jeou était plutôt favorable à la réunification. Mais en revanche, quand Tsai Ing-wen, la candidate du Parti populaire démocratique indépendantiste, arrive au pouvoir, là,
en 2016,
à ce moment-là, Pékin, qui en plus est dirigé par quelqu'un qui n'est pas particulièrement tendre, qui est Xi Jinping, essaye fait pression sur les partenaires de Taïwan. Parce que l'idée, pour n'importe quel dirigeant du Parti communiste chinois, il est essentiel de pouvoir être l'homme qui aura réunifié la Chine.
Et alors, peut-être plus encore pour Xi Jinping, qui parle beaucoup du rêve chinois.
Alors, Xi Jinping, bien sûr. Deng Xiaoping a récupéré Hong Kong et Macao. Les autres, ils ont travaillé un petit peu. Maintenant, le seul qui reste, au fond, c'est Taïwan. Alors, comment faire? On peut pas dire d'ailleurs que la politique de Xi Jinping ait porté ses fruits. Il ne semble pas que la formule un pays de système soit acceptée par Taïwan. On n'a pas véritablement progressé non plus ni dans le domaine des échanges économiques ni dans le domaine des échanges politiques. Et la question du fameux communiqué commun de 1992 qui devait ouvrir la possibilité aux deux pays d'entrer dans une forme de confédération puisque chacun décidait qu'il représentait la Chine et on acceptait ça, ce communiqué n'est pas reconnu par Tsai Ing-wen. On a donc toujours
par le Parti démocrate progressiste.
Toujours par le Parti démocrate progressiste. Donc on a toujours cette oscillation et surtout l'absence totale de progrès de vue de Pékin vers la réunification. Alors, on fait peur et on se dit que en développant la dépendance de Taïwan à l'égard de la Chine, on réussira peut-être effectivement à obliger les dirigeants et surtout la population taïwanaise à élire des dirigeants qui sont plus favorables à la réunification.
Et justement, cette dépendance, elle passe par l'accord cadre de coopération économique qui a été décidé en 2010, je crois, Françoise Mangin. Qu'est-ce que cet accord a permis et quelles ont été ses conséquences sur Taïwan?
Cet accord fait partie des 19 accords qui ont été signés lorsque le Kuomintang est revenu au pouvoir en 2008. entre 2008 et 2013, 19 accords ont été signés, qui vont de l'ouverture de relations aériennes directes jusqu'à la possibilité pour les touristes chinois de venir à Taïwan, et un accord cadre de coopération économique donc en 2010 qui prévoyait une réduction des droits de douane et l'ouverture progressive des secteurs des services. Mais d'une part, l'accord sur le commerce des services signé en 2013 n'a jamais été ratifié, puisque sa ratification par le Parlement taïwanais a été stoppée par un mouvement étudiant pacifique qui a occupé le Parlement pendant 3 semaines, mouvement tout à fait exceptionnel, puisqu'il ne demandait même pas une dissolution du Parlement, puisqu'il demandait simplement que une procédure démocratique de ratification soit opérée.
Donc on comprenait que cet accord était politique.
Là, je voudrais dire 2 choses. D'une part, tous ces accords sont intervenus donc à partir de 2008, pendant les 8 ans de présidence du Kuomintang Ma-ying-jeou, à un moment où, à partir de la fin de 2007, les entrepreneurs taïwanais commençaient à se désengager du marché chinois. Ça, c'est une chose. L'autre
c'est
chose.
C'est désengagé. Pourquoi? Parce que les salaires commençaient à augmenter en Chine.
Parce que les marges bénéficiaires sont beaucoup moins fortes. Il y a une concurrence des entreprises chinoises. Il y a une législation environnementale, certes embryonnaire, mais qui les oblige à respecter certaines normes. La loi sur le contrat de travail du 1er janvier 2008. Donc les entreprises taïwanaises qui en ont les moyens se désengagent du marché chinois ou bien relocalisent dans des provinces plus intérieures où la main-d'œuvre reste encore extrêmement bon marché. Donc, en plus, à partir de 2016, changement de parti au pouvoir, et c'est la présidente du Tsai Ing-wen du Parti démocrate progressiste, improprement qualifiée d'indépendantiste, parce qu'il faut voir que indépendantiste, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des indépendantistes purs et durs qui veulent proclamer la République de Taïwan aujourd'hui. Et puis, il y a ceux qui remettent à plus tard l'indépendance formelle de Taïwan. Et comme, d'ailleurs, le Kuomintang qui remet à plus tard, enfin en tout cas la majorité du Kuomintang, la réunification, se borne à essayer de maintenir le statu quo dans l'étroit de Taïwan.
Mais c'est en tout cas la ligne de clivage entre le Kuomintang et le Parti démocrate progressiste.
Oui, c'est ça. C'est l'un garde comme objectif à long terme la réunification, à condition que la Chine soit démocratisée, et l'autre garde comme objectif à long terme l'indépendance d'une république de Taïwan. Mais les deux partis, quand ils sont au pouvoir, sont contraints de maintenir le statu quo avec différentes méthodes. La méthode de Ma-ying-jeou pendant 8 ans, ça a été de se rapprocher de Pékin et de négocier des accords avec Pékin, accords qui n'ont aucune valeur, on pourra peut-être en dire un mot dans un instant. La méthode de Tsai Ing-wen, c'est simplement d'essayer de ne pas provoquer Pékin. Et puis c'est tout.
Et justement, sur les conséquences de cet accord sur Taïwan, est-ce que Taïwan avait besoin de cet accord de coopération économique?
Oui, ça dépend de quel point de vue on se place. C'est-à-dire que cet accord cadre de coopération économique favorisait les grandes entreprises taïwanaises aux dépens des petites entreprises taïwanaises. Et donc, justement, à la faveur de tout le débat qui a été déclenché par ce mouvement étudiant, mouvement des tournesols qui a occupé le Parlement, en 2014, un débat sur les retombées inégalitaires des accords signés par le Kuomintang avec le Parti communiste chinois, puisque c'est bien comme ça qu'il faut appeler ça, a été engagé.
Ça n'apporte pas d'emploi, il n'y a pas d'usine chinoise, il n'y a pas de service chinois. Donc effectivement, Taïwan, du point de vue de la classe moyenne, est vraiment perdante dans l'histoire. Les gens en ont eu marre et depuis, tout le monde s'exprime de manière très libre et il n'y a plus de tabou de conservatisme. Et on a une floraison d'idées qui montre que les choses sont véritablement en train de changer et qu'on n'a pas juste la perspective d'un changement de majorité, mais qu'on a véritablement la perspective d'un changement d'époque à Taïwan.
Le politologue Stéphane Corcus sur France 24, le 15 janvier 2016. Alors on l'a dit, le changement de majorité a eu lieu. La chef de file du Parti démocrate progressif, Tsai Ing-wen, a été élue présidente en mai 2016. Toute la question c'est, est-ce que cela a entraîné ce changement d'époque à Taïwan dont parle Stéphane Corcus, Jean-Philippe Béja?
Il est difficile de le dire, mais enfin, c'est vrai que le mouvement des tournesols a été quelque chose de très important, et je crois que ça fera date dans l'histoire politique de Taïwan, et ça prouve surtout que la nouvelle génération, parce que mouvement des tournesols, c'est des étudiants. Cette nouvelle génération n'accepte pas facilement l'idée, même à très long terme, d'une réunification avec la Chine. D'ailleurs, on a vu à la suite de ce mouvement des tournesols une grande victoire du Parti démocrate progressiste, non seulement à la présidence qui était déjà arrivée, mais à l'Assemblée. C'est-à-dire au yuan législatif. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je voulais juste dire un mot peut-être de la manière dont l'évolution à Taïwan est perçue en Chine, dans la société chinoise, plus encore que par le gouvernement chinois. Vous savez, à la veille de l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, il y avait une fascination, il y a eu énormément de livres qui sont sortis sur Jiang Jingguo. Jiang Jingguo, le fils de Chiang Kai-shek, qui était considéré comme celui qui a démocratisé la Chine. Et on disait, regardez, c'était un prince, c'était le fils de l'empereur qui, lui, justement, est passé à la démocratie.
Donc ce n'est pas incompatible.
Regardez Xi Jinping. Xi Jinping est un fils de grands dirigeants, et donc lui aussi va peut-être passer à la démocratie. Bon, alors ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. En même temps, Taïwan fascine une grande partie de la société chinoise et notamment des intellectuels, l'idée d'une Chine où les gens sont polis, où les gens sont bien élevés, où on continue à avoir une culture chinoise. C'est quelque chose, le nombre de touristes, alors il y a bien sûr les touristes en général, mais le nombre d'intellectuels qui vont faire du tourisme à Taïwan, c'est quelque chose de très important. Donc ce n'est plus seulement le miracle économique, comme c'était le cas au début des années 80, à la fin des années 70, qui fascine la Chine, mais c'est aussi le développement social et politique. Alors donc, les gens connaissent mal la situation à Taïwan, mais quand on vous dit souvent, vous savez, le nationalisme chinois, les gens sont prêts à partir pour libérer Taïwan, c'est quelque chose qu'il faut prendre plutôt avec des pincettes. Donc il y a cette espèce de fascination. Alors du côté de Taïwan, on se méfie énormément, de plus en plus, de la position chinoise, car, je veux dire, et l'exemple de Hong Kong est un merveilleux exemple négatif. C'est-à-dire que ça, je crois qu'il faut regarder l'évolution de Hong Kong et des rapports entre Hong Kong et le continent si on veut comprendre comment Taïwan s'éloigne de plus en plus de cette formule d'un pays de système.
À mesure que la dépendance économique de Taïwan envers la Chine grandit, l'influence de Pékin sur l'île prend également de l'ampleur. Françoise Mangin, comment est-ce que la Chine cherche en particulier à manipuler l'information à Taïwan et avoir de l'influence sur les évolutions politiques?
Oui. Alors, d'abord, il faut pas cette dépendance économique est forte, mais il faut pas quand même l'exagérer. Et pour compléter ce qu'a dit Françoise Nicolas tout à l'heure, et il ne faut pas oublier que Taïwan commerce avec tous les pays du monde, et y compris avec tous les partenaires diplomatiques de Pékin. Juste pour vous donner quelques chiffres, 40% des exportations taïwanaises sont vers la Chine, 19% de ces importations viennent de Chine, mais tout le reste c'est vers l'ASEAN, vers les États-Unis, vers l'Europe, vers le Japon. Donc il ne faut pas exagérer la dépendance économique de Taïwan par rapport à la Chine.
On exagère aussi l'influence de Pékin sur Taïwan ?
On l'exagère pas, mais elle existe parce que
l'influence politique, je veux dire.
Oui, l'influence politique, elle est très très difficile à mesurer, parce que à partir du moment où les dirigeants chinois se sont aperçus que effectivement cette intégration économique ne conduisait pas à plus de ne poussait pas en faveur de la réunification, bien au contraire, ils ont été très habiles. Ils ont essayé de manipuler les ressorts d'un régime démocratique. Et pendant que le Kuomintang était dans l'opposition entre 2000 et 2008. Le Parti communiste chinois et le Kuomintang a accepté de négocier avec le Parti communiste chinois un accord basé sur le fameux consensus de 92, une Chine différentes interprétations, et de permettre, à partir du moment sous l'administration Kuomintang entre 2008 et 2007, la signature de tous ces accords.
Alors, maintenant, Pékin a eu l'influence sur, en tout cas, la ligne idéologique du Kuomintang.
Oui, oui et non, parce que le Kuomintang est un parti très clivé. Il y a des clivages politiques, il y a des clivages générationnels qui sont très importants. Alors, ce qu'on appelle la politique de front uni, ce que les Chinois essayent de faire, pas seulement au niveau du gouvernement central, mais au niveau du gouvernement des provinces également, c'est de repérer des électorats ciblés et d'apporter une aide, y compris matérielle, à certains électorats, par exemple, une petite localité qui dépend de la pisciculture, d'apporter toute une aide technique à cette pisciculture, etc. Mais après, quand on examine comment cette localité va voter, elle ne va pas nécessairement voter en faveur du Kuomintang.
le président Xi Jinping qui a promis de ramener dans le giron de la mère patrie Taïwan par tous les moyens. Aujourd'hui, le statu quo qui prévalait entre la Chine et Taïwan et qui dit ni indépendance ni réunification est menacé, selon vous, Jean-Philippe Béja ?
Il a toujours été menacé depuis qu'il existe. Donc, bien sûr, il est menacé. Mais est-ce qu'il est beaucoup plus menacé qu'avant les rodomontades de Xi Jinping ? Ce n'est pas évident. Alors, évidemment, on voit aujourd'hui, la Chine est de plus en plus présente sur la scène internationale, elle est de plus en plus puissante, elle a des moyens d'acheter les partenaires, etc.
De plus en plus de pays cessent de reconnaître Taïwan. Il y a eu quatre pays qui ont cessé de reconnaître Taïwan en 2 ans.
Oui, mais comme le disait très justement Françoise, ça ne les empêche pas de commercer avec Taïwan. Donc je veux dire, pour étouffer Taïwan, il faudrait... Écoutez, c'est simple. Il faut quand même regarder la situation géopolitique d'un peu plus haut. La question, c'est est-ce que les États-Unis vont continuer à défendre Taïwan ? Si Donald Trump est prêt pour un avantage à court terme à lâcher Taïwan et à donner surtout ce signal à la Chine pourrait venir. Mais autrement, tant que les États-Unis sont engagés en faveur de Taïwan, je doute fort que Xi Jinping, avec tous ses bateaux, aille libérer Taïwan.
Et c'est l'heure de retrouver les nouvelles de l'écho avec Arjuna Andrade. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui de la volonté annoncée du gouvernement de privatiser d'ici à 2022 les 150 plus grands barrages hydroélectriques français.
Mais oui, vous avez aimé les aéroports de Paris, les autoroutes et Engie. Vous allez adorer ce nouvel épisode de la grande série de privatisations pour le moins étonnante menée par le gouvernement français. Cette annonce fait suite à près de 10 ans de pression de la part de la Commission européenne pour démanteler la gestion publique de l'énergie hydroélectrique. Il faut dire que Bruxelles enrage contre la position ultra-dominante d'EDF, qui en sa qualité d'acteur public de l'énergie détient et gère 85% du parc hydraulique français, soit près de 2300 barrages en France. Des années que la Commission aimerait voir tomber ce monopole d'État aux allures insupportables de vestiges sociaux marxistes en plein cœur de l'Europe des marchés. Puisqu'il était impossible d'exiger la privatisation des centrales nucléaires, relevant des activités d'importance vitale de la nation, la Commission s'est donc portée sur la deuxième source française de production d'énergie, à savoir les barrages.
Or justement, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer ce projet de privatisation, arguant du caractère également stratégique des barrages hydrauliques.
Oui, il faut dire que le réseau hydroélectrique français, en parallèle du réseau nucléaire, a été construit au lendemain de la guerre pour bâtir l'indépendance énergétique de la France et reste aujourd'hui encore un élément fondamental dans l'équilibre du mix français. Ainsi, cette énergie est la seule à être véritablement propre et renouvelable. Elle est aussi mobilisable à tout instant pour s'adapter aux évolutions de la consommation d'énergie. Ainsi, rien de plus simple pour réguler la production d'électricité que d'ouvrir ou de fermer les vannes d'un barrage. Se défaire de leur gestion serait donc renoncer à cette capacité de lissage de la production électrique en cas de pic ou de pénurie.
On peut ainsi se demander ce que feraient des acteurs privés s'ils venaient à détenir et à contrôler de telles infrastructures.
Oui, d'autant que l'électricité produite par les centrales hydroélectriques est aujourd'hui la moins chère de France, 20 à 30 euros par mégawatt-heure, contre 35 à 46 pour le nucléaire. Or, comme le révèle le média en ligne Le Vent se lève, un opérateur privé pourrait facilement maintenir les vannes du barrage fermé et attendre qu'un pic de consommation fasse frôler la pénurie d'électricité pour faire monter les prix. Sur le plan juridique, rien ne les en empêcherait. Pour se donner une idée du type de chantage financier que peuvent exercer des acteurs privés dans de telles conditions, il suffit de se rappeler l'épisode qu'avait opposé General Electric à EDF il y a quelques années. Après avoir racheté Alstom Energy en 2016, l'entreprise américaine avait organisé une grève de maintenance pour obtenir d'EDF des conditions de gestion plus avantageuses. Après une centaine d'incidents, la direction d'EDF avait fini par céder et donner gain de cause aux Américains. On ose à peine imaginer le pouvoir que donnerait le contrôle de ces infrastructures quand on sait que les barrages hydrauliques servent aussi de réserve d'eau pour refroidir les centrales nucléaires.
Au-delà de ces aspects économiques et stratégiques, les barrages remplissent un certain nombre de fonctions utiles pour la société.
Mais oui, ils servent ainsi de bases de loisirs comme sur le lac de Serre-Ponçon, de réserve d'eau potable pour les villes ou de retenue d'eau pour l'agriculture. On peut néanmoins se demander si un opérateur privé serait aussi enclin à libérer de l'eau gratuitement pour satisfaire aux besoins de la communauté sans contrepartie. Que Bruxelles pousse à la privatisation du secteur hydroélectrique n'est guère étonnant. Elle est dans son son rôle d'aiguillon des politiques néolibérales et de héros des vertus de la concurrence prétendument libre et non faussée. Ce qui pose plutôt question, c'est l'empressement du gouvernement à satisfaire à cette exigence de Bruxelles, incompréhensible a priori tant elle semble aller contre l'intérêt général, à moins qu'il ne s'agisse d'un énième cadeau sans contrepartie de la communauté aux intérêts privés.
Islands. Merci beaucoup Françoise Mangin et Jean-Philippe Béja d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain pour une émission consacrée aux économies du bout du monde. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.